Laudetur Jesus Christus.
Quatre pays en moins de 24 heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky achève ce vendredi à Berlin un marathon chez ses alliés européens. Zelensky reçu également ce matin par le pape François au Vatican. C'est la deuxième audience privée entre les deux hommes chez le pape depuis le début de la guerre. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Le Liban toujours sous les bombes israéliennes. Sahel qui est montré du doigt également par l'ONU. Des casques bleus de la FINUL, la mission onusienne dans le pays, ont été visés, provoquant l'indignation de plusieurs chancelleries occidentale. Le Liban, nous en parlerons avec Monseigneur Younan, le patriarche d'Antioche des Syro-catholiques. Dans ce journal également, le prix Nobel de la paix décerné ce vendredi à une organisation japonaise de survivants des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Un encouragement pour un monde débarrassé de l'arme nucléaire. Et puis ce 11 octobre était la journée internationale consacrée par l'ONU aux droits des filles dans le monde. Nous entendrons une responsable de l'ONG française Plan International qui lutte contre les fléaux qui les affectent à travers la planète.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. La fin de la guerre dans son pays en 2025, tel est le souhait du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a achevé ce vendredi après-midi à Berlin une tournée européenne express qu'il a menée également à Londres, Paris et Rome. Le président ukrainien qui est venu s'assurer du soutien de ses alliés alors que son pays s'apprête à vivre un troisième hiver en guerre. Notre soutien pour l'Ukraine ne faiblira pas, promis tout à l'heure le chancelier allemand Olaf Scholz en recevant Zelensky. Ce matin, c'est au Vatican que le chef d'État ukrainien avait rendez-vous, une rencontre de 35 minutes en tête-à-tête avec le pape François, la deuxième depuis le début de la guerre au Vatican. Marie Duhamel.
Quelques heures après la mort d'une jeune journaliste de 27 ans dans un camp russe, Volodymyr Zelensky en appelle au Saint-Père et au Saint-Siège pour que leur soient rendus les hommes, les femmes, les enfants capturés et déportés en Russie. Une question, dit-il, incroyablement douloureuse. Vêtu de son traditionnel pull militaire vert, le président ukrainien pourra attirer une fois de plus l'attention du monde sur les atrocités vécues par son peuple, a offert à l'évêque de Rome un tableau sur le massacre de Boutcha commis en mars 2022. Le pape, lui, a fait donc d'une fleur sculptée en bronze représentant la fragilité de la paix, de paix juste et stable en Ukraine, des moyens d'y parvenir. Il en a été bien sûr question lors des entretiens du président, la secrétaire d'État, tout comme de la situation humanitaire à plus de 960 jours de guerre. Outre l'envoi de matériel médical, d'ambulances, de générateurs et de vêtements thermiques, le Saint-Siège a manifesté son attention de différentes manières. Il y a bien sûr les appels du pape, mais aussi les missions du cardinal Zuppi sont envoyées aux quatre coins du globe ou le voyage en juillet du cardinal Parolin en Ukraine. Autre sujet abordé ce matin, des questions relatives à la vie religieuse en Ukraine, informe le Saint-Siège. Un thème délicat, si l'on se souvient, au mois d'août de l'interdiction de l'église orthodoxe ukrainienne liée à Moscou, en Ukraine. Une interdiction que François avait condamnée au nom de la liberté religieuse.
Marie Duhamel et Volodymyr Zelensky, qui est lors de cette tournée chez ses alliés européens, a démenti toute discussion en cours sur un quelconque cessez-le-feu avec la Russie. L'Ukraine, où une enquête a été ouverte par le parquet général pour crime de guerre après la mort en détention en Russie d'une journaliste, Victoria Rochtina. Elle avait été arrêtée au mois d'août 2023 par les forces russes en territoires occupés dans l'est de l'Ukraine. Son décès a été rendu public hier dans une lettre du ministère russe de la Défense à sa famille. Un autre front est bien sûr celui du Liban où l'armée israélienne poursuit son offensive contre les positions du Hezbollah. Le gouvernement libanais a appelé aujourd'hui l'ONU à faire cesser le feu immédiatement entre l'État hébreu et la milice chiite. L'ONU qui se retrouve pris entre deux feux dans cette guerre. Pour le deuxième jour consécutif, des casques bleu de la FINUL, la mission onusienne déployée à la frontière sud, ont été pris pour cible. La communauté internationale hausse le ton. Paris a convoqué cet après-midi l'ambassadeur israélien. L'Irlande, elle, qui fournit des soldats à la FINUL également, accuse Israël d'être de plus en plus hostile aux forces de l'ONU. À Tel Aviv, on promet ce soir un examen approfondi après ces nouveaux incidents. Metzal explique avoir ouvert le feu en direction d'une menace à proximité d'une position des casques bleus. Cette guerre qui s'élargit au Liban a été au cœur des entretiens ce matin entre le pape et le patriarche syro-catholique d'Antioche, Monseigneur Ignace Youssef Younan, dont le patriarcat siège à Beyrouth. Monseigneur Younan qui fait également partie des pères synodaux présents à Rome durant ce mois d'octobre. On l'écoute.
J'ai remercié sa sainteté pour le support paternel, pour les prières, pour le Liban et aussi la condamnation de la violence qui est en cours dans au Liban comme en Palestine. Nous sommes vraiment dévastés par ce qui se passe au Liban pour nous. Et je lui ai dit que notre patriarcat se trouve juste à 2 kilomètres du quartier sud de Beyrouth, là où il y a des bombardements. On est toujours alarmés pour ce qui se passe. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Le Liban a été l'otage d'une faction, d'une milice, eh bien, fondamentaliste, qui continue à s'armer, à augmenter ses forces militaires, et personne n'avait le courage de dire que ça, ce n'est pas pour le bien du Liban.
Monseigneur Younan, patriarche syro-catholique d'Antioche, présent actuellement à Rome, où il participe au synode sur la synodalité. Concernant ce synode, une prière œcuménique aura lieu tout à l'heure, à 19h, au Vatican, en présence de tous les membres de cette assemblée, de nombreux autres membres d'églises protestantes ou orthodoxes. Une prière présidée par le pape François, suivre en direct, commentée en français sur notre site Vatican News et notre page Facebook. À la une de l'actualité également, le Japon à l'honneur ce vendredi. Le prix Nobel de la paix a été décerné à l'association Nihon Hidankyo, créée en 1956. Elle regroupe des survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et milite depuis des années pour l'abolition des armes nucléaires dans le monde. Elle a été évidemment très saluée depuis le Japon. À Tokyo, Philippe Mesmer.
Le prix Nobel de la paix attribué à Nihon Hidankyo honore une organisation ancienne, pacifiste et profondément engagée pour la disparition des armes nucléaires. La structure réunit les Hibakusha, les survivants des bombardements atomiques de 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Le premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a salué le choix du comité Nobel. Les Hibakusha ont réagi avec joie à l'annonce du prix. Pour eux, ce prix est comme une reconnaissance de leur travail amorcé lors de la création de Nihon Hidankyo. C'était en 1956. L'organisation milite contre les armes nucléaires, multiplie les interventions à l'ONU. Elle joue un rôle déterminant dans l'élaboration du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, signé en 2017 et entré en vigueur en 2021, et qui interdit la mise au point et la possession d'armes atomiques. Elle reçoit le Nobel de la paix alors que le monde connaît une intensification des conflits. Les armes nucléaires peuvent être utilisées par des terroristes. Si la Russie les utilise contre l'Ukraine et Israël contre Gaza, cela ne s'arrêtera pas. Les dirigeants politiques doivent en avoir conscience, a ainsi déclaré Toshiyuki Minami, l'un des membres de Nihon Hidankyo. À Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
En Chine, 4 employés de l'entreprise taïwanaise Foxconn arrêtés. Taipei qualifie d'étranges les conditions de leurs arrestations. Foxconn est l'un des leaders mondiaux des composants électroniques comme les puces. Cette arrestation a lieu alors que les tensions se multiplient entre Pékin et l'île taïwanaise. Moins connu que le 8 mars dédié aux droits des femmes, le 11 octobre est la journée internationale consacrée par l'ONU à ce défi. Jusqu'à 25 ans, elles font partie des populations les plus vulnérables sur les théâtres de guerre, exposées les premières à leurs fléaux, violences sexuelles, mutilations, mais aussi déscolarisation. L'ONG française Plan International les a répertoriés dans une enquête menée auprès de 10 000 enfants originaires d'une dizaine de pays. On écoute Lucie Dechiffre, elle est la directrice des programmes à l'ONG.
Déjà, il faut une prise de conscience générale et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Journée internationale des droits des filles, il est vraiment important de mettre la lumière sur ces impacts différenciés des crises sur les filles et les jeunes femmes. Il faut se mobiliser pour alerter sur la situation des droits des jeunes filles en contexte de crise, mais en gardant bien à l'esprit qu'il y a un besoin d'un accès égal, c'est-à-dire de faire en sorte que les filles et les jeunes filles aient aussi accès à cette assistance humanitaire d'urgence, qu'elles aient aussi accès à un appui psychosocial, c'est un élément extrêmement important. C'est aussi soutenir la participation et la mobilisation des jeunes filles dans les prises de décision et dans la construction de la paix. C'est un élément qui est très négligé aujourd'hui. On a mené des enquêtes qui montrent que 9 filles et jeunes femmes sur 10 se disent exclus des espaces de décision. Or, sans les jeunes filles, il n'y aura pas de paix.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Avant de refermer ce journal, un mot du Soudan où la malnutrition inquiète l'ONG Médecins sans frontières. Ce n'est plus une urgence, mais un cauchemar, alerte l'ONG française à propos de l'insécurité alimentaire dans le pays, déchiré par la guerre civile depuis le mois d'avril 2023. 26 millions de Soudanais souffrent d'une faim aiguë. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité tout au long de cette semaine. Demain à 18h, ce sera le retour de notre émission hebdomadaire Vox Mundi. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée et un très bon week-end.